Bonjour. Vous écoutez Musique en mémoire. Il est question cette semaine de l'école de New York. Il y a John Cage, il y a Morton Feldman, il y a les autres. Soyez les bienvenus.
Musique en mémoire. Jean-Luc Rider.
Bonjour Catherine Buzer.
Bonjour Jean-Luc.
On en sait déjà beaucoup sur cette école de New York des années 50, des années 60. Grâce à vous cette semaine Catherine, grâce à votre invité Ivan Illich.
Oui, on n'a encore pas tout découvert de cette école. Alors hier, on a fait connaissance avec les cinq principaux acteurs de l'école de New York.
Que vous me rappelez ?
John Cage, Morton Feldman, Early Brown, David Tudor et Christian Wolff.
Oui.
Et puis aujourd'hui, eh bien, nous allons concentrer notre propos autour des deux acteurs principaux de cette école. L'incontournable John Cage et le compositeur qui est aussi le chouchou d'Ivan Illich. On a pu s'en apercevoir hier dans les propos qu'il nous a tenus. Celui qui est au cœur de ses recherches, Morton Feldman.
Ivan Illich, qui est très jeune, il est né en 1978, qui est américain. Il a été mathématicien et pianiste. Et il est donc l'auteur, notamment, de ce disque appelé The Transcendentalist, qui met en œuvre des pages de ses compositeurs américains. Une musique de l'école de New York qui nous accompagne toute cette semaine.
John, wouldn't you say that what we're dependent on, we call reality, and what we don't like, we consider an intrusion in our life? Consequently, I feel that what's happening is that we're continually being intruded upon.
That would make us very unhappy.
Or we surrender to it and call it culture.
Call it culture?
Or whatever.
Give me an example. What would be an intrusion on your life, for instance, that you would call culture?
Well, this weekend I was on the beach.
Yes.
And on the beach these days are transistor radios.
Yes.
Blaring out rock and roll.
Yes.
All over.
Yes. And you didn't enjoy it?
Not particularly. I adjusted to it.
How?
By saying that... Well, I thought of the sun and the sea as a lesser evil.
Well, you know how I adjusted to that problem of the radio in the environment. Very much as the primitive people adjusted to the animals which frightened them and which probably, as you say, were intrusions. They drew pictures of them on their caves. And so I simply made a piece using radios. Now, whenever I hear radios, even a single one, not just 12 at a time, as you must have heard on the beach, at least, I think, well, they're just playing my piece.
John Cage et Morton Feldman en pleine conversation. Où est-ce que vous avez déniché cette perle, Ivan Illich ?
Alors, c'est un enregistrement qui a été fait en 1966 à New York, donc à la radio publique. C'est assez extraordinaire d'ailleurs, qui a invité les deux compositeurs à converser à la radio pendant une heure, comme ça. Et alors, on entend vaguement les verres trinquer, on entend les briquets s'allumer, ils fument dans le studio, ils boivent, et ils partagent les idées. Et je trouve que c'est un moment très privilégié, puisque d'habitude, dans la vie d'un artiste, on peut avoir ce genre de conversation où on partage des idées, mais jamais en public. Et c'est exceptionnel que cette archive existe et qu'on puisse les consulter. Donc, il y a 5 émissions avec John Cage et Morton Feldman qui sont sur le site archive.org. C'est passionnant. Ils traitent de différents sujets et ça a été publié par la suite.
C'était traduit en allemand, notamment.
Oui, tout à fait.
Vous voulez juste, en deux mots, résumer les propos qu'échangent les deux hommes dans ce qu'on a entendu ?
Alors, c'est très intéressant, justement, puisque ça résume, en quelque sorte, la différence entre Feldman et Cage sur le plan esthétique. Et c'est un point... Déjà, je trouve ça très touchant que ces deux hommes, qui, finalement, sur un point aussi fondamental, n'étaient pas d'accord, pouvaient être aussi proches, en tant qu'amis et en tant qu'artistes. L'idée, c'est que Feldman, lui, il a une conception de ce qu'il est beau, de ce qui peut être beau, de la beauté en général. Et tout ce qui n'est pas beau, tout ce qui ne rentre pas dans cette case, le gêne. Donc là, en l'occurrence, il est à la plage, ce sont les radios des autres qui diffusent de la musique rock qui le gênent. Tandis que John Cage dit « Moi, j'ai apprivoisé le bruit en composant de la musique avec du bruit. » Donc lui, il fait allusion à une pièce à lui où il demande à quelqu'un d'allumer 12 radios. D'ailleurs, il faut 24 personnes, parce qu'une personne pour manipuler le son et l'autre pour manipuler le choix de la chaîne. Et donc, il y a 12 chaînes diffusées au même temps sur scène. C'est très drôle. Et il dit que quand il entend des radios aujourd'hui, il a l'impression qu'on joue son œuvre. Et ça, c'est toute la différence philosophique entre Cage et Feldman, puisque John Cage, il essaie pendant toute sa vie, de façon diverse, d'accepter le plus en plus de bruits ou de sons qui sont produits naturellement et qui peuvent éventuellement être considérés comme musique. C'est un avis tellement ouvert, c'est à l'extrême en fait. Tandis que pour Feldman, il n'arrive pas à aller jusque-là et ça ne l'intéresse pas. Et finalement, plus il vieillit, Feldman, plus son concept de la beauté est restreint. Il est moins novateur en quelque sorte, Feldman, là-dessus. Mais ce qui est incroyable, c'est que les deux compositeurs, en ayant une philosophie diamétralement opposée, réussissent chacun de son côté à créer des chefs-d'œuvre.
Alors hier, vous nous avez raconté comment les deux artistes se sont rencontrés au cours de ce fameux concert du Philharmonique de New York, autour de la symphonie d'Edgar Varèse. Alors aujourd'hui, on va essayer d'approfondir l'amitié qui a uni les deux hommes tout au long de leur carrière. Et peut-être pour mieux comprendre cette amitié, on va essayer de replacer chaque artiste dans son contexte. Alors honneur aux plus âgés, on va commencer par John Cage. Qui était-il ?
Alors John Cage est né en 1912 à Los Angeles. Il entame des études qu'il abandonne assez rapidement puisqu'il réalise que le système d'enseignement est fait pour créer de la médiocrité dans l'enseignement et ça ne lui convient pas. Alors, à ce moment-là, il hésite entre être écrivain, peintre, musicien. Il est un peu paumé, il faut dire. Alors, il part en Europe après avoir abandonné ses études et il découvre plein de choses. Il voyage en Italie, en France et il revient avec des idées assez différentes. Et par contre, il se consacre assez rapidement à la musique. Donc, quoi faire à Los Angeles quand on veut devenir compositeur ? Il faut aller étudier auprès du plus grand maître de l'époque, c'est Arnold Schoenberg, qui s'est installé à Los Angeles après avoir quitté Vienne. Il reste auprès de Schoenberg pendant 2 ans. Schoenberg qui a un enseignement extrêmement étriqué, qui a écrit plusieurs livres sur l'harmonie et notamment qui fait le lien entre son système à lui, dodécaphonique, et la grande tradition allemande, donc Beethoven, Brahms, etc. Et en fait, Schoenberg veut faire croire que son système à lui, son langage, tout ce qu'il a inventé, est une suite logique à cette grande tradition allemande, ce qui agace Stravinsky, évidemment. Mais il arrive à bien défendre ses idées. Un peu comme Nadia Boulanger, Schoenberg a un système qu'il utilise pour apprendre à ses élèves à développer leurs idées. C'est-à-dire que chaque élève qui veut commencer la composition doit commencer un morceau avec un noyau musical qui va développer, faire des permutations de notes qui sont tous tirées quelque part de ce noyau dur. Cage, ça ne l'intéresse pas du tout. Il a beaucoup de mal avec l'harmonie. Et il y a une citation connue où Schoenberg lui dit « Vous n'avez pas de talent pour l'harmonie. Vous allez vous frapper la tête contre le mur. » Quand vous faites ça. Et Cage lui a dit, s'il faut que je frappe ma tête contre le mur, c'est ce que je ferai toute ma vie. Un jour, Schoenberg lui confie que, en quelque part, en lui enseignant, il veut empêcher ses élèves à écrire de la musique, ou leur donner l'impression qu'ils ne peuvent plus écrire de la musique, tellement ils vont faire attention. Et Cage, comme c'est exactement le contraire de ce qu'il recherche, lui, c'est l'ouverture, c'est justement de pouvoir écrire, il quitte l'enseignement de Schoenberg. Cage se marie relativement jeune. Après, il a différentes expériences, notamment à la Cornish School, dans l'État de Washington, où il accompagne Merce Cunningham. Il fait la grande rencontre de sa vie, puisque Merce Cunningham, chorégraphe et danseur, va devenir son compagnon. Et c'est le moment d'une énorme rupture dans la vie, au niveau psychologique notamment, puisqu'il c'est un grand changement. Il divorce, il part à Paris, il vit plein de choses. Et il réalise qu'il va falloir qu'il trouve sa propre voie. Et c'est assez étonnant parce qu'il y parvient. Un moment clé dans la vie, dans le parcours de Cage, c'est quand on lui demande d'écrire de la musique pour percussion, pour un spectacle de danse. Et il réalise en fait que dans cette fosse d'orchestre, il n'y a pas la place pour la percussion. Et il y a, tout ce qu'il y a, c'est un petit piano de très très mauvaise qualité, en mauvais état, de surcroît. Alors qu'est-ce qu'il va en faire? Et il se dit, il faut absolument que je compose une musique pour ce spectacle avec les peu de moyens que j'ai. Et il se souvient d'un livre de Henry Cowell qui a proposé de nouvelles techniques pour modifier le son du piano en plaçant des objets sur les cordes. Alors Cage a commencé en expérimentant, en plaçant par exemple une assiette sur les cordes, mais le problème c'est que ça rebondissait. Alors il a commencé à expérimenter plutôt avec des vis et des choses comme ça, des clous. Il a commencé à introduire des pièces. Il a réalisé qu'à la fois ça transformait le son de piano et ça rendait le piano comme un instrument de percussion. Et à la fois, c'était jamais pareil, puisque selon le jour, selon l'humidité de la salle, selon l'harmonique qui était sensible dans la salle ou dans le piano, ce serait jamais pareil. Donc cette ouverture d'esprit l'intéressait beaucoup. C'était pas vraiment une recherche de précision, mais d'ouverture, de nouveaux sons. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le piano préparé, hein. Alors, évidemment, on pourrait dire que Cowell et d'autres compositeurs ont modifié le son du piano auparavant. Mais Cage est allé vraiment au bout de la chose. Aujourd'hui, si on veut jouer les sonates et interludes de piano, chef d'œuvre de Cage, on peut mettre 2 à 3 heures à préparer le piano, à introduire ses vis, à mesurer exactement est-ce que c'est ce qu'il voulait. Et en même temps, il faut avoir une certaine sensibilité pour modifier la préparation pour que ça sonne, parce qu'il faut que ça sonne. C'est pas quelque chose d'uniquement conceptuel. C'est très intéressant la façon dont Cage s'est réinventé en fait en tant que compositeur. C'est pour cela que Schoenberg a dit un jour qu'il n'avait pas d'élèves de génie en tant que compositeur. Par contre, il y avait un inventaire de génie. Il pensait évidemment à Cage. C'est assez drôle parce qu'on a ce lien, le grand maître Schoenberg avec l'élève Cage. Mais finalement, si Cage avait suivi l'enseignement de Schoenberg, on n'aurait jamais entendu parler de lui.
N'est pas un compositeur, mais un inventeur. La phrase est restée aujourd'hui célèbre et c'est vrai que l'invention du piano préparé, en quelque sorte, c'est vraiment à Cage qu'on la doit. Je propose qu'on écoute un extrait de ces sonates et interludes que vous venez de mentionner. On va écouter la 5e et la 6e sonate de John Cage. Thank you. De sonate pour piano préparé de John Cage, ici interprété par Alec Caris. Très belle version que cet enregistrement, vous me le faites remarquer, Ivan Illich. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette interprétation ?
J'aime la prise de son, j'aime la disposition des sons dans l'espace, l'image sonore, j'aime l'impression que tout simplement il y a quatre percussionnistes qui jouent et pas un piano préparé. Je trouve ça magnifique. Et puis le phrasé d'Alec Caris m'intéresse beaucoup puisqu'elle est élégante. Il y a quelque chose de transparent dans sa version. Et en même temps, on sent qu'il fait des petits ajustements pour que ça sonne mieux dans l'espace, dans l'acoustique.
C'est une œuvre que vous avez travaillée, ces sonates et interludes ?
Alors, j'ai travaillé dessus en tant que chercheur, si je puis dire. C'est une œuvre qui m'intéresse beaucoup, mais je ne l'ai toujours pas jouée. Maintenant, c'est devenu l'une des pièces de Cage les plus connues et elle n'a pas besoin de moi que je la défende, même si c'est une pièce qui m'intéresse musicalement. L'œuvre de Cage qui a besoin d'être défendue davantage, c'est les pièces de la première période, donc des années 30, des années 40, juste avant les sonates et interludes. Il y a des très belles pièces assez lyriques, assez presque naïves, quand il était très influencé par Satie, Cage. Et je trouve que c'est important, quand on parle de Cage, d'insister sur le fait que c'était un grand musicien, que c'est quelqu'un qui, par la suite, a rejeté sa propre subjectivité, parce qu'il voulait avoir une gamme d'horizons plus large de possibilités, mais que c'est quelqu'un qui savait composer la musique, puisque après, on le considère un peu comme l'enfant terrible, l'avant-gardiste qui faisait tout et n'importe quoi. Et du coup, j'aime bien jouer les premières œuvres de Cage. Je trouve ça très intéressant de montrer son sens de la mélodie, par exemple, ou du rythme, ce qui se ressent d'ailleurs dans les sonates et interludes pour piano préparé.
Je pense que Cage a dû souffrir aussi de l'image qu'on a de lui, de révolutionnaire, de novateur. Si on regarde certaines vidéos qui sont disponibles sur YouTube, on le voit expérimenter. J'ai le souvenir d'une, justement, je faisais allusion hier à cette baignoire qu'il utilise. Alors on le voit jeter des éléments dans l'eau, puis après jeter des radios par terre et le public est mort de rire. Alors j'ai l'impression qu'on a de la peine à le prendre au sérieux dans ses expériences.
Oui, je pense qu'il était, il était victime de son propre succès en quelque sorte. C'est à double tranchant, hein, parce qu'en même temps, un compositeur expérimental qui passe à la télé en 1960, je crois que c'est tout à fait exceptionnel. Donc, il jouissait d'une réputation internationale. Et en même temps, effectivement, on se moquait beaucoup de lui. D'où l'intérêt de plonger dans la recherche sur le contexte de l'école de New York, puisque tous les gens qui connaissaient Cage disaient la même chose, que c'était un homme avec une discipline de fer qui travaillait toute la journée, tous les jours, très sérieusement sur ces questions. On peut se moquer de l'idée que les musiciens choisissent les notes qu'ils vont jouer, etc. Mais pour lui, c'était une recherche très sérieuse et à laquelle il était voué entièrement. Et c'est assez touchant même de voir à quel point il était dévoué à sa musique.
Alors, il y a une œuvre de John Cage qui est particulièrement emblématique, celle qui est 4 minutes 33, qui a marqué l'histoire de la musique. Est-ce que vous voulez nous raconter la genèse de cette œuvre ?
Alors, dès 1948, John Cage pensait à la possibilité de cette œuvre. Il pensait la créer pour une durée de 3 minutes ou d'une durée de 4 minutes 30, puisqu'à ce moment-là, dans l'industrie de la musique, si je puis dire, populaire, il y avait une entreprise aux États-Unis qui s'appelle Muzak. Et Muzak, c'était la musique en boîte. C'est-à-dire, c'est une musique qu'on utilisait dans les pubs, qu'on pouvait diffuser dans des endroits publics, etc. C'est exactement la musique de meublement que Satie avait prévu de dessiner plus tôt. Cage s'est dit, ce serait intéressant de proposer à l'entreprise Muzak donc une pièce de 4 minutes 30 qu'il appellerait, par exemple, une prière. Donc un peu ironique, puisqu'on est censé mettre de la musique pour meubler. pour que les gens soient à l'aise, un peu comme moi ce matin au petit déjeuner, au buffet de l'hôtel, où j'entendais des chansons pop des années 70. Hein, on sent que c'est important de créer cette ambiance, sinon les gens sont mal à l'aise avec le silence. Eh bien, Cage, il voulait faire ça, mais il n'osait pas. Donc en 1948, il laisse tomber. Et quelque chose s'est passé quand il a vu les tableaux de Robert Rauschenberg, donc grand peintre expressionniste abstrait, qui commençait à avoir des tableaux entièrement blancs ou des tableaux entièrement noirs. Et on réalise assez vite, avec ces tableaux monochromes, que ça n'existe pas un tableau entièrement noir ni entièrement blanc. Il y a toujours des reflets, il y a toujours une petite poussière dessus, on voit quelque chose, là il n'y en a pas. Et je pense que ça a beaucoup marqué Cage dans cette démarche. Et il a réalisé le lien avec la musique, effectivement, c'est que le silence, ça n'existe pas. Il y a toujours des sons. Et on n'est pas réceptif à ces sons. Un peu comme Feldman, ce qu'il disait dans la conversation, le happening tout à l'heure, il disait « Je suis à la plage et je suis embêté par le bruit autour de moi. » Et Cage qui disait « Mais ce bruit, c'est ma pièce. » Eh bien, il est allé au bout de la chose avec le 4-3, puisqu'il a créé une pièce de silence où finalement on écoute uniquement les bruits qui ne sont pas intentionnels, les bruits, les accidents sonores dont on est entouré. Hein. Même ici en studio, on est dans un environnement acoustique propre, il y a toujours quelque chose qu'on entend. Et John Cage est allé dans une chambre anéchoïque à Harvard pour avoir cette expérience de savoir qu'est-ce que c'est le vrai silence. Et ça n'existe pas, parce qu'il entendait des bruits de son propre corps. Donc à quel point on ne peut pas échapper au son, au bruit, et que ça peut être perçu comme quelque chose de positif. Ça, c'est un changement quand même conceptuel très, très fort.
Et c'est en quelque sorte aussi l'aboutissement de sa philosophie du hasard complet, puisqu'on ne sait pas ce qui viendra comme bruit, qu'est-ce qu'on entendra dans cette plage de silence.
Tout à fait. C'est vraiment, je trouve que pour une fois, c'est tout à fait juste que cette œuvre soit la plus connue d'un compositeur, l'œuvre emblématique, puisque c'est l'œuvre qui exprime parfaitement sa philosophie.
Et au-delà de 4 minutes 33, qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Quelle ligne John Cage a-t-il suivi après cela?
On voit à travers son évolution qu'il recherchait la même chose, mais en utilisant des moyens différents. Donc pour lui, il s'est penché sur l'idée qu'on pouvait avoir une notation ambiguë. On a parlé un peu de ça hier dans l'épisode avec Earl Brown, avec Christian Wolff. Donc l'école de New York, c'était des compositeurs qui voulaient expérimenter avec la notation, laisser un peu d'ambiguïté. Par exemple, Earl Brown, parfois, il écrit des notes où on n'est pas sûr quelle note c'est. Et c'est voulu. Il voulait créer une tension comme ça avec l'interprète. Avec John Cage, il commençait surtout à se retirer de sa, entre guillemets, responsabilité de compositeur. Il s'est dit, si c'est toujours moi, John Cage, qui choisis les notes, je vais toujours choisir en fonction de mon goût, de mon jugement, de mes préjugés surtout. Et résultat, l'aspect de la composition sera toujours limité par moi. Alors, comment est-ce qu'on peut échapper à ça? On compose au hasard. Ça, c'était quelque chose que Cage a découvert grâce à Christian Wolff, qui lui a offert le livre du I Ching, qui lui a permis, en quelque sorte, de composer en jetant des dés. Alors, l'intérêt de cela, c'est pas de mettre n'importe quoi. C'est d'avoir des matériaux qui sont proposés, non pas par sa propre subjectivité, mais par une tierce source, en fait. Donc, ce qui plaisait à John Cage par rapport à cela, c'est que ça lui donnait accès à plein de choses auxquelles, lui, il n'aurait jamais pensé. Et je trouve que c'est une idée assez riche. Hein. Alors, en commençant avec ça, il a, pendant des années, pendant presque le reste de sa carrière, de 1950 à 1992, il a utilisé des schémas pour l'aider à ouvrir ses oreilles, à avoir plus de bruit, de son potentiel, comme matériau à utiliser dans ses compositions. Et c'est pour ça que quand on entend Cage, on peut s'attendre à tout, littéralement à tout, parce que lui aussi, il pouvait s'attendre à tout. C'est pour ça aussi qu'il s'est ouvert tout naturellement vers le théâtre, vers toutes sortes d'événements, puisque quand n'importe quoi peut arriver dans une composition musicale, bah, c'est pas que du son finalement, ce sont des gestes, c'est de la danse, c'est des choses qu'on voit. Tout ça, ça fait partie de l'expérience.
Les premières pages du concerto pour piano et orchestre de John Cage ici dans un enregistrement réalisé en 1992, soit l'année de la mort de notre compositeur. Au piano, il y a Joseph Kubera, accompagné par l'orchestre SEM sous la direction de Petr Kotik. On comprend volontiers l'impact que John Cage a pu avoir sur des jeunes disciples qu'on a mentionnés hier, Christian Wolff, Earle Brown, Morton Feldman et David Tudor. Ce qui m'amène à la question que nous avons ouverte hier en fin d'émission. Ce groupe des cinq américains, est-ce qu'on peut le comparer au groupe des six français ou au groupe russe, la petite main toute puissante?
Je pense que c'est surtout le regard de l'extérieur qui compte dans ces cas-là. Et si on appelle ce groupe de compositeurs l'école de New York, c'est en effectivement puisqu'ils étaient conscients d'un regard déjà historique sur eux. C'est-à-dire que dès que vous avez une figure majeure comme Cage dans une génération et des gens qui gravitent autour de lui, vous savez qu'il se passe quelque chose. En plus, ils étaient avec les plus grands peintres de leur époque, amis, ils se voyaient tous les jours. Je pense que pour ces Américains, c'était très important justement de se comparer aux Parisiens du début du XXe siècle, puisqu'il y avait cette tradition des cafés littéraires, etc., des salons. Ils aspiraient à être à la hauteur de ce genre de choses, que leur production soit un jour regardée un peu comme Satie et compagnie. Donc effectivement, je pense que c'est très important, cette masse qui se produit. Et surtout, les gens à l'étranger qui s'intéressent à un groupe, c'est un peu du marketing, il faut le dire. C'est quelque chose qui fait que ces compositeurs, on les situe, on peut dire. C'est qui Earle Brown? Ah, c'est le disciple de John Cage. Donc, tout de suite, on comprend, ou on pense qu'on comprend quelque chose sur lui.
Cette idée de marketing était aussi, elle présidait aussi au groupe des six Français qui étaient plus réunis par l'amitié que par une véritable idée en commun de la composition. Poulenc et Millau avaient des façons très différentes de composer. Mmh. Alors que là, dans notre école de New York, il semblerait que les idées de John Cage font leurs émules. Bien sûr, elles sont traitées chacune à leur façon, mais il y a quand même, il me semble, un tronc commun ou un fond commun.
Oui, c'est vrai. Je pense que ce qui était surtout étonnant chez ce groupe de compositeurs, c'est qu'ils élaboraient les idées ensemble. C'est-à-dire que tous les jours, presque, ils se réunissaient pour discuter, pour avoir des nouvelles idées ensemble. Le but n'était pas d'impressionner l'autre avec la nouvelle idée qu'on pouvait avoir. Il y a une histoire que Morton Feldman a inventé la notation graphique, c'est-à-dire l'imprécision voulue des notes, puisque John Cage, un jour, leur faisait un riz et il mettait trop de temps. Donc, pendant que John Cage était dans la cuisine, Morton Feldman se mettait à table avec un crayon et une petite feuille de papier. Il a commencé à dessiner une partition dans laquelle on voit qu'il y a vaguement des notes hautes, des notes graves, mais on ne sait pas exactement lesquelles sont les notes. Et quand il a montré ce qu'il a griffonné à Cage, ils sont devenus tous très excités par cette idée, par la possibilité musicale qu'ils pouvaient suivre.
On va approfondir cette idée de notation graphique, mais j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la figure de Morton Feldman, parce qu'elle est assez particulière au sein de cette école américaine. Vous faisiez allusion tout à l'heure au fait qu'au départ, on a John Cage, qui est la tête de file de ce groupe, et les disciples qui sont de la même génération, les quatre, plus Christian Wolff, qui est plus jeune. Mais il me semblerait qu'au fil des années, Morton Feldman va prendre de plus en plus d'importance et devenir finalement l'égal de John Cage.
Oui, ça c'est quelque chose qui est encore en cours. Hein. La réception de l'œuvre de Feldman, c'est un sujet à part, c'est absolument passionnant, puisque moi qui ai fait des recherches poussées sur Feldman, j'ai lu sa correspondance à Bâle dans la fondation Paul Zurer, qui est magnifique, et qui nous permet de voir l'évolution du personnage, son évolution psychologique aussi. Et on ressent qu'il ne reçoit pas la reconnaissance qu'il aimerait avoir, dans les années 60 notamment. Il faut se souvenir que Morton Feldman, donc, qui est né en 1926, n'a jamais fait d'études. Il était assez complexé par rapport à cela. Il a lu toute sa vie des traités de philosophie et dans ses conférences, on voit qu'il a une culture extrêmement large, mais il a besoin de se prouver en tant qu'intellectuel. C'est très intéressant. Autrement, quand il rencontre John Cage à 24 ans, Cage lui donne un énorme coup de pouce. Il y a un film qui va être tourné sur Jackson Pollock. Et Cage n'aime pas vraiment l'art de Jackson Pollock, alors il propose à Feldman d'écrire la musique pour ce petit documentaire qui va devenir un document vraiment historique. Et Feldman, qui a 24 ans à peine, qui écrit un petit morceau de rien du tout pour deux voix de violoncelle, C'est assez impressionnant quand même. C'est le genre de choses qui n'arriverait jamais aujourd'hui que, je ne sais pas, un grand compositeur connu mondialement propose à un petit gamin de 24 ans d'écrire la musique pour exprimer en plus l'art d'un grand peintre. C'est quelque chose qui est vraiment hallucinant. Alors par la suite, Feldman va continuer à travailler dans l'entreprise familiale jusqu'à même 44 ans, j'ai envie de dire. Très très longtemps, il garde son indépendance par rapport au monde académique de la musique, un peu comme Ives finalement. Sauf que Feldman, il aimerait réussir. Il essaie par tous les moyens de faire connaître sa musique. Moi, j'ai lu des lettres de Feldman qu'il a écrites à presque toutes les universités des États-Unis. Il voulait donner des conférences. Ça aurait été pour lui prestigieux de faire comme Cage, d'être invité dans les universités, Harvard, etc., et de donner des conférences sur sa musique. Et il a eu très peu de réponses. Et parfois, il a reçu des réponses, il relance et il ne se passe rien. Donc je pense qu'on ressent une frustration majeure chez lui jusqu'à environ 1966, quand il a 40 ans, quand les gens commencent à réagir. Notamment en Europe, il faut dire, en Allemagne, en Angleterre. Il a commencé à donner des tournées avec ses musiciens favoris pour promouvoir sa propre musique. Et c'est très étonnant, en fait, puisque dans la musique, un peu comme dans les maths, on a souvent des génies très jeunes et on se dit que pour réussir, il faut être Mozart, quoi. Il faut qu'on commence à composer ses concertos à 16 ans, etc. Et avec Feldman, c'est vraiment le contraire. Il s'épanouit beaucoup plus tard. Il a écrit beaucoup de petites pièces expérimentales, souvent assez courtes. On l'imagine bien en terminant sa journée à 18h dans l'entreprise familiale et commencer à composer la musique à la fin de la journée. Donc c'est vraiment une image qui est totalement au contraire de l'image qu'on a d'un compositeur aujourd'hui, qui puisse faire ça dans son temps libre. Alors, il y parvient, puisqu'il creuse un réseau, notamment avec Leon Lucas Foss, qui est chef d'orchestre et compositeur et professeur à Buffalo, donc dans l'État de New York, un peu en dehors de la ville, à 2 heures en train, donc un peu en province, et on lui propose un poste de professeur d'un an. Et Feldman accroche. Il fait tout pour rester et effectivement, il devient prof titulaire l'année suivante et il restera jusqu'à la fin de sa vie, de 1972 à 1987. Alors, l'importance de cette période, c'est que pour la première fois de sa vie, à partir de 40 ans, Feldman peut se consacrer à la composition toute la journée. Et c'est grâce à l'université de Buffalo qu'on doit toutes les chefs d'œuvre de Feldman. Parce qu'il a enseigné, je pense que c'était une fois par semaine, il donnait un cours assez digressif, paraît-il. Et il a composé tout le reste du temps. Donc, c'était lui, il a apprécié ce temps. Hein. Pour lui, ce n'était pas un acquis de pouvoir passer son temps à composer. Et il a enfin pu se consacrer à la composition. Et là, il s'est épanoui pleinement. Non seulement dans le sens musical, mais personnellement aussi. Il a écrit des œuvres très longues, très compliquées, des pièces d'orchestre. Et on sait tous qu'écrire une pièce d'orchestre, ça prend du temps. Il faut noter la partition énorme, il faut copier tout. C'est vraiment un investissement considérable. Et en plus, il était en dehors de New York, donc il était plus concentré.
Eh bien, on va écouter justement une de ces pièces pour grand orchestre. Vous nous proposez d'entendre un concerto pour violon. On a entendu tout à l'heure le concerto pour piano de John Cage. On va voir ce que Morton Feldman fait du soliste dans ce concerto intitulé Violin and Orchestra.
Thank you.
Les premières pages du concerto pour violon et orchestre de Morton Feldman, œuvre intitulée Violin and Orchestra. Caroline Widmann en était la soliste, accompagnée par l'orchestre de la radio de Francfort, sous la direction d'Emilio Pomarico. Comment est-ce que Morton Feldman et John Cage considéraient leurs œuvres réciproques ?
Ils y prêtaient une attention toute particulière, en tout cas. Je pense que c'était très difficile pour Feldman de se détacher de l'influence de Cage au départ, notamment au niveau médiatique. On considère que Feldman avait trois périodes, un peu comme Beethoven, un peu comme tous les compositeurs d'ailleurs. La première période, c'était la musique expérimentale, qui était très influencée par Cage et par sa pensée, par la rencontre avec Cage tout simplement. C'est les années 50. Après, Cage est parti vers le côté aléatoire, la musique indéterminée, la chance. Et même si Feldman était conscient de ce que Cage faisait et assistait à tous ses concerts, il est parti vers toute autre chose. Il a commencé enfin à avoir de la reconnaissance dans les années 70 et Feldman a composé une suite de concertos à l'image de celui qu'on vient d'entendre avec violon et orchestre qui sont assez glamoureux en fait. Cette grande orchestre, très riche de sons, d'échelles de sons. Il profitait en fait. On a l'impression que c'est quelqu'un qui toute sa vie aurait voulu écrire pour orchestre. Enfin, il a l'occasion, alors il en profite vraiment de toutes les couleurs possibles de l'orchestre, de la beauté de cet orchestre. Et à la fin, la musique de chambre de Feldman, sa troisième période entre guillemets, très intimiste, des pièces extrêmement longues, douces, toujours, mélancoliques. Et Cage s'est laissé influencer. Surtout après la mort de Feldman en 87, il commence à écrire une série de pièces qui s'appelle les séries de pièces à chiffres, ou qui s'appelle 1, 2, 3, etc. Et en fait, c'est le nombre de personnes qui jouent. Et on retrouve souvent une ambiance feldmanienne un petit peu, intimiste, douce. C'est quelque chose que Cage ne rejetait pas avant, mais il n'aurait pas forcément choisi cette esthétique-là. Et après le décès de Feldman, on voit que, presque en hommage à son ami Feldman, qui se tourne un peu vers ce côté intimiste. Alors, par contre, sur le plan philosophique, clairement, durant leurs carrières respectives, il y avait une grosse différence. Cage a dit un jour, pour en revenir à Feldman, il est tout à fait différent de moi. Il a une image de ce qui est beau et il s'est consacré à cette image. Moi, je n'en ai aucune. Et ça, c'est une phrase clé, qu'il n'a pas de préjugés sur ce qui peut être beau. Tandis que Feldman, il raffinait finalement son oreille personnelle. Il ne rejetait pas son subjectivité, son instinct, son intuition. Au contraire, non seulement il les acceptait, mais il voulait que son intuition s'épanouisse. Quand il a rencontré Stockhausen a analysé une de ses partitions. Il lui a demandé, mais comment tu fais pour composer? C'est quoi le système? Quel est le schéma qui permet à une note de suivre l'autre? Et Feldman a dit, il n'y en a aucune. Et Stockhausen ne voulait pas croire. Mais Feldman, il joue une note, puis il joue une autre. Il joue une note, puis il joue une autre, en lien avec la première, et ainsi de suite. Et la structure de la pièce se construit au fur et à mesure. Ça, c'est une idée qui est complètement étrangère à la plupart de compositeurs du XXe siècle, qu'il fallait absolument avoir une structure préétablie, rigoureuse, logique, en fonction avec la science, par exemple. Et c'est assez touchant de voir Feldman rejeter tout ça. Alors, je pense que Cage était très mal à l'aise avec sa subjectivité. Et résultat, il voulait s'éloigner. Mais c'est intéressant de voir dans les résonances des pièces où ces deux compositeurs se rejoignent quand même. Feldman souligne souvent le fait que Cage était une personne, tout simplement, très différente de lui, qu'il était sociable. Feldman dit un jour, « John est quelqu'un de très différent de moi. Je crois que c'est une question de tempérament plutôt que d'esthétique. John a toujours mené une vie communautaire. Il a toujours des gens autour de lui. C'est une scène publique. Et depuis toujours, depuis sa jeunesse, il a une maison remplie de gens. John et moi avons habité le même immeuble près de l'East River pendant environ 7 ans. Il y avait des gens tout le temps. Je veux dire que lorsqu'il y a des gens, il y a du théâtre. Ensuite, il a travaillé avec la troupe de Merce Cunningham. Il s'est occupé de danse, c'est-à-dire de beaucoup de gens. Ensuite, il s'est occupé de musiciens, et cela représente encore plus de monde. C'est le public. Moi, pendant toute ma vie, j'ai essayé de sauvegarder ma vie privée. Mon travail est privé. Et pour moi, cette, ce paragraphe de Feldman en dit long et large sur la différence. Sur Feldman, on est toujours en huis clos, on est dans une petite pièce sombre, on est tout seul, souvent. C'est une musique qui s'écoute seule. C'est quelque chose de, d'assez mélancolique, oui, mais aussi de méditatif. C'est quelque chose qui nous permet de rentrer en contact avec soi-même. Mais par contre, je trouve que c'est très intéressant cette façon dont Feldman décrit Cage en tant que personne, parce qu'on réalise que la vie de Cage était une performance. En fait, toute sa vie, non seulement la création de ses œuvres, mais les conférences qu'il a données, la poésie qu'il a écrite, les tableaux qu'il a peints, c'est quelqu'un qui était tout le temps sur scène. Même s'il veut nous faire croire que c'est, il est un peu bouddhiste, il a ce côté un peu détaché du monde, pas tant que ça, parce qu'il avait besoin de l'attention des autres.
Eh bien, c'est justement ce côté social et mondain de John Cage qu'on va explorer demain en travaillant sur ses relations avec les artistes visuels. On va refermer cet entretien autour de Morton Feldman et de John Cage en écoutant une dernière pièce de Morton Feldman. On sent que ce compositeur, vous aimez sa musique, vous la portez. Mais auparavant, une dernière question sur ce compositeur. Comment expliquez-vous que de disciple, il soit devenu finalement l'équivalent de John Cage dans les dernières années de sa carrière ?
C'est une évolution très intéressante. Hein. Je pense que Feldman, tout au long de sa vie, se méfiait énormément de l'ombre de Cage, puisqu'il voyait déjà dans sa jeunesse que même si c'était positif d'être associé à Cage, donc compositeur largement reconnu, qu'il avait besoin de tuer le père, en quelque sorte, de s'imposer. Et du coup, dans les interviews, souvent, Feldman, il ne va pas dire du mal de Cage, mais il va dire... il va faire en sorte d'imposer une vision de sa musique à Feldman qui le valorise par rapport aux grands concurrents, si je puisse dire, Cage, Stockhausen, Boulez. Il fait beaucoup de blagues sur ces trois compositeurs tout au long des interviews. Et donc, c'était un travail politique, tout simplement. Feldman adorait parler. Il a fait beaucoup d'interviews, beaucoup de conférences, et il se positionnait en permanence. On sent les coudes de Feldman qui sont tout le temps en mouvement. Et je pense que finalement, l'explication la plus simple, peut-être que parce que j'ai envie d'y croire, parce que j'aime la musique de Feldman, c'est que depuis le décès de Feldman, sa musique a enfin pu être reconnue pour ce qu'elle est, de la grande musique. Et je pense que parfois, quand on a un compositeur qui pousse, qui veut absolument de la reconnaissance, les gens sont mal à l'aise un petit peu, ils se retirent, ils se disent « mais pourquoi il nous force tellement ce gars ?» C'est comme quelqu'un qui fait tout le temps son marketing, ça met les gens mal à l'aise. Et maintenant que Feldman n'est plus là, on peut considérer sa musique pour ce qu'elle est. Et elle a, dans sa recherche de résonance, dans son intimité, quelque chose qui parle aux gens, tout simplement. Donc le début de « Parler de Marie », qui a été diffusée dans l'émission hier, et une pièce que j'ai enregistrée, donc qui est sortie récemment. Le début de cette pièce est comme du Debussy. C'est quelque chose qui est vraiment très accessible. Et même si Feldman, tout au long de sa carrière, avait une démarche expérimentale, il avait, comme Cage a dit, une image de ce qu'il est beau, et il s'est consacré à cette image. Et il a raffiné cette image. Et cette image est devenue de plus en plus soyeuse, de plus en plus attractive, séduisante. Et c'est très difficile de rester insensible à cette image.
Bien, nous allons refermer ce volet en écoutant une pièce que Morton Feldman a écrite en hommage à son ami Christian Wolff, une pièce pour flûte et piano.